Salut, salut les gars, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado et qu'on est diffusé sur BPM Sport. Nicolas Richard, en direct de ton somptueux domicile, ça fera différent de te voir sur les pentes de ski. Comment te portes-tu?
Oui, ça va. Là, le ski est pas mal fini, là, je pense. Là, il y a toujours une grosse tempête fin mars habituellement, mais je pense que je vais troquer bientôt les skis pour les raquettes. Là.
Dis-le que tu n'as pas les jambes pour skier dans la slush du printemps.
Il y a surtout le fait que je suis pas assez riche pour m'acheter une autre paire de skis de printemps. C'est plus ça. Là.
Une paire de skis de printemps?
Mais non, mais moi, j'ai des skis de qualité d'hiver. Je ne vais pas scraper ça dans la garnotte. Là.
OK. J'étais comme, on va avoir une discussion hors podcast sur le ski. Là, tu vas voir, dépasse pas trop ton argent dans le vide. Hugues Léger, comment vas-tu en direct du somptueux Parc Jarry dans les bureaux de Tennis Montréal?
Ouais, en plein Sunshine Double et le printemps ce soir. Écoute, solstice de printemps, hein, on est le 20 mars, donc c'est officiellement le printemps. On peut enlever nos pneus d'hiver, mais peut-être pas trop vite quand même. Mais on sent que la saison estivale de tennis s'en vient là, quand le Sunshine Double se termine, on est en plein milieu, puis que le stretch sur terre battue rouge commence. Là. Donc moi, j'aime bien cette période-là. Le printemps arrive.
Oui, c'est la période où c'est pour l'amateur de sport nord-américain un peu plus complexe. En tout cas, il faut regarder du tennis le matin. Il faut que tu sois un fan de tennis le matin, mais ça peut servir à beaucoup de monde. Hey Hugues, j'avais une question pour toi parce que, écoute, là, ça fait quelques mois quand même que tu es en place à Tennis Montréal. Est-ce que l'intégration, elle est pas mal complète? La routine de travail pas mal complète et les grands chantiers mis en place?
Il y a des chantiers importants qui ont beaucoup progressé. Évidemment, on est le prestataire de choix sur l'île de Montréal. On est le club de tennis de Montréal, je vais le dire comme ça, là, qui opère 12 mois par année au stade IGA, dans tous les grands parcs de Montréal. On a engagé beaucoup de nouveaux coachs pour l'été qui s'en vient. Puis effectivement, il y a plusieurs grands chantiers, notamment au niveau de l'accessibilité qu'on travaille en ce moment. L'accessibilité, c'est les infrastructures, mais c'est aussi les prix qui sont les plus abordables, notamment pour les juniors. On a moratoire sur les prix qui ne montent pas. Là. Donc, oui, ça va très bien. Je suis avec une super bonne gang ici, notamment Sébastien Prieur, qui est notre nouveau directeur technique, qui a eu une promotion. Sébastien, qui a été un des premiers coachs de Gabriel Diallo, qui a justement gagné ici le week-end dernier à l'ITF 25 000, et même de Léla Annie Fernandez. Donc, Tennis Montréal est aussi l'organisme qui recrute les stars de demain là, au niveau du terrain, au niveau du parc. Au coin de la rue, je dirais.
Ben, ça part de la base, là. Tu n'as pas d'élite si tu n'as pas une base, en tout cas à moins d'être vraiment chanceux. Là, il y a quelques exceptions ici et là dans différents sports. Là, mais de façon générale, si tu veux développer une élite qui se tient, ça te prend une base solide. Et puis ben, ça passe par des clubs comme Tennis Montréal et d'abord et avant tout par le local. Ça, c'est absolument certain. Messieurs, parlons de tennis, puisque c'est notre mandat et d'actualité de tennis particulièrement. On va y aller en ordre chronologique, si vous le voulez bien, parce que la semaine passée, la plupart des Canadiens étaient éliminés. Commençons avant de parler des finales. Là, je veux qu'on revienne sur cette performance-là de Félix Auger-Aliassime qui a fait une belle performance, a quand même un quart de finale contre Carlos Alcaraz. Nico, tu as pensé quoi de cette performance-là? Es-tu satisfait de ce quart de finale-là et surtout de la performance de Félix contre Carlos Alcaraz?
Complètement. Satisfait parce que Félix n'a pas été déclassé. Puis c'est ce que j'expliquais dans mon texte de la presse. Pour moi, là où ça s'est joué, puis c'est ultra simple, c'est qu'on a vu la différence entre un gars qui aspire à être numéro un mondial, c'est-à-dire Carlos Alcaraz, et un gars qui lutte pour rester dans le top 10, c'est-à-dire Félix Auger-Aliassime. La marge, elle est infime, elle est minime, mais on l'a vu, que ce soit dans le choix de tactique, que ce soit dans les choix de jeu, que ce soit dans la décision de faire certains coups à certains moments. Tu sais, on a vu que Félix n'était pas complètement à l'aise, notamment pour monter au filet, ce qu'Alcaraz a fait du début à la fin. Fait que c'est dans ce genre de choix de stratégie où je vois la différence entre, comme je le disais, un numéro mondial et un top 10, top 5-ish mondial. Mais Félix n'a pas à être déçu de cette performance-là, loin de là.
Après la rencontre, Félix a dit qu'il avait rarement vu un joueur être aussi efficace et aussi agressif que Carlos Alcaraz. Hugues Léger, es-tu d'accord avec ce commentaire-là de Félix?
Et c'est drôle. Agressif, c'est exactement le mot que Guillaume Marx a utilisé quand je lui ai parlé du match, parce que Guillaume était, évidemment, il est souvent présent au Centre national, donc on a échangé un peu sur le match de Félix contre Alcaraz, et lui aussi a été étonné, dans le sens impressionné plutôt, par l'agressivité, l'intensité d'Alcaraz durant tous ces matchs, à tous les coups. On va reparler un peu d'Alcaraz après. Là, on parle de Félix. Donc, Félix a fait un bon match. Félix se retrouve au 6e rang mondial ce matin au nouveau classement. Donc, il retrouve sa meilleure position historique. Il a monté de... Il a accumulé 140 points là, pour sa performance à Indian Wells. 6-4, 6-4, c'est un bon match. Il a fait un meilleur match à Alcaraz que Medvedev a fait pour la finale en passant. Ça aussi, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, je pense que oui, c'est une bonne semaine. Mais moi, j'ai été étonné d'une chose, c'est que Félix a paru déclassé athlétiquement, ce qui est très rare. Et d'être un petit peu en retard, frapper derrière lui un peu des fois, ça démontre le niveau d'Alcaraz en ce moment, son niveau d'intensité et son niveau de réussite à très haute vélocité. C'est ça, moi, qui me jette sur le derrière avec Alcaraz en ce moment, le rythme qu'il peut tenir et sa qualité d'exécution dans tous les aspects du jeu et dans toutes les positions sur le terrain, incluant le filet.
Mais il y a aussi le fait, puis Hugues, je pense que tu vas être d'accord avec moi, on s'en parlait cette semaine. Félix, il est extraordinaire. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Puis c'est Martin Lemay, plutôt sur nos ondes cette semaine, qui me posait la question. Comment Félix se démarque? Quelle est sa grande force à Félix? Évidemment, la réponse qui me vient en tête, c'est le service. Et on a vu à quel point cette phase du jeu, dans la partie de Félix, elle est névralgique. Toute la semaine, Indian Wells, Alex t'en parlait lors de notre dernier épisode, à quel point c'était coup-ci, coup-ça pour Félix. Puis on a vu à quel point, si Félix n'a pas son service, c'est difficile. Il est très bon dans toutes les autres facettes du jeu, évidemment. Mais là, dans le contexte où on parle d'Alcaraz contre Félix, Alcaraz, meilleur retourneur sur le circuit, ça, il n'y a pas de doute. Et Félix en a arraché toute la semaine. Donc là aussi, ça se jouait là. Et ultimement, ça, un peu comme Sabalenka, on l'a vu hier. Sabalenka, pas de service, c'est difficile. Même chose pour Félix. Je pense que c'est aussi ce qui a été joué dans sa tête ultimement.
Ben, c'est tellement une arme efficace dans son cas. Et c'est un des bons serveurs. Tu sais, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un des bons serveurs sur
le circuit ATP
quand son service fonctionne. Quand son service fonctionne. Alors, il a un service. C'est une arme très dangereuse. Ouais. Moi, messieurs, je vais être très transparent avec vous. J'avais une finale Medvedev, Félix Auger et Aliassim.
Moi aussi, Alex.
Et ma décision, c'était Félix va passer Carlos Alcaraz parce qu'il l'avait battu trois fois en trois matchs. Oui. Alors, moi, j'avais prévu, je m'étais dit, bon, d'accord, Carlos Alcaraz, il joue bien, il arrive de finale et de titre récent, mais une de ses bêtes noires, c'était Félix. Mais là, je pense qu'il vient de passer en deuxième vitesse. Il a été excellent contre Félix. Et un 6-4-6-4 contre une future légende, il n'y a pas à rougir de cette performance-là. Mais je pense que Carlos Alcaraz a trouvé une autre vitesse qui va faire en sorte que beaucoup de joueurs vont avoir de la misère à jouer contre lui dans les prochains mois/années.
Alex, si je peux rajouter, Félix a connu un tournoi courageux, je vais le dire comme ça, parce qu'il y a eu des matchs compliqués. Là. Tommy Paul, il y a eu plusieurs longs matchs, des matchs en 3-7. Puis effectivement, son service était un peu moins efficace que d'habitude. Quand sa première balle est sous les 50%, ça apparaît tout de suite. Tout repose sur ça. S'il sert en 70-80%, il va gagner 95% des points sur première balle. Donc, c'est vraiment là qu'il y a eu une différence. Puis peut-être qu'effectivement, les conditions, comme Medvedev l'a bien souligné, étaient un peu lentes sur ce terrain. Le vent a pu l'affecter un peu. Évidemment, ce n'est pas des excuses. Ce que je dis en ce moment, c'est vraiment une analyse de ce qui s'est passé. Mais Félix n'était pas dans des conditions optimales pour tirer avantage de sa grosse arme habituelle qui est son service.
Mais c'est dommage, les gars, parce qu'avec du recul, on se rend compte que si Félix passait Alcaraz, il gagnait le tournoi. Avec la manière dont Medvedev a joué hier contre Félix, je suis convaincu que Félix avait ce tournoi-là dans la poche. Tu sais.
Oh ouais, là, c'est quand même, il y aurait eu deux autres gros matchs à gagner quand même. Là,
oui, mais... complètement. Mais, sinon, mais je parle de vos prédictions. Là, tu sais, vous aviez mis Félix et Medvedev en finale.
Oui.
Ça aurait été chouette que Félix puisse profiter de peut-être des largesses de Medvedev hier. Tu sais.
La bonne nouvelle dans le cas de Félix, c'est qu'on s'en parlait depuis le début de la saison. Le Sunshine Double était un endroit où il pouvait aller chercher des points au classement s'il c'est veut maintenir sa place au classement. Oui. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans un des plus gros tournois au monde. On en parlait au début du tournoi, c'est pas le tournoi qui l'a favorisé le plus dans son histoire. Et ben là, il vient de faire quand même un résultat qui est beaucoup plus que raisonnable. Alors, au final, c'est une bonne performance pour Félix Auger-Aliassime. Mais comme tu le dis, c'est une performance courageuse. J'aime le terme que tu utilises parce que déjà, dès le premier tour, ça aurait pu être très compliqué. Là, avec un premier set de plus d'une heure et demie, par le premier set, tu sais pas qu'est-ce qui arrive après ça. Et Tommy Paul, ben écoute, il a passé à plusieurs balles de match de se faire sortir. Alors, il a une résilience, il a eu une résilience incroyable, une bonne performance contre Carlos Alcaraz qui éventuellement remporte le tournoi. Je pense que Félix peut dire sans aucun doute mission accomplie. Et tu sais, tu parlais de BPM Sport un peu plus tôt, Nico. Max Van Hout m'a posé la même question cette semaine en me disant « Ouais, mais est-ce qu'on doit être satisfait quand Félix n'atteint pas la demi-finale? » Et ma réponse à ça, c'était « Ben, ça dépend c'est quoi la nature du tableau. » Il faut toujours regarder les résultats en fonction du... analyser ton résultat en fonction du tableau. Quand tu frappes Carlos Alcaraz, qui est numéro un mondial, théoriquement, tu n'es pas favori. Alors, c'est difficile de voir du négatif dans ce tournoi-là pour Félix Auger Aliassime, et qui plus est, ben, il a pu jouer en double avec son ami Chapovalov. Bon, puisqu'on y est, messieurs, passons du côté des hommes. Bon, tu disais, Hugues, Carlos Alcaraz n'a pas été aussi efficace en demi-finale, mais il a quand même trouvé un moyen de gagner. Et en finale, il a été, je ne sais pas si impérial est le bon mot, je ne sais pas si Medvedev était fatigué, mais... il a été dominant, à tout le moins, dans ce match-là contre Medvedev.
Oui, je pense que et sa victoire contre Sinner en demi-finale a été quand même plus nette que celle du US Open, hein, qui était un des plus grands matchs de l'année 2022. Le fameux quart de finale qui avait duré 5h15, qui s'est terminé à 3h du matin, qui est un match d'anthologie. Donc, il a quand même travaillé pour battre Sinner, donc à Indian Wells en demi-finale, mais c'est une victoire quand même solide. Et en finale, il a été tout simplement, il était le seul joueur sur le terrain, je vais le dire comme ça. Là, Medvedev m'a pas paru l'ombre de lui-même. Puis je regardais ce que ses coachs disaient dans son box. Il n'y avait pas beaucoup de communication non plus. Donc, je pense qu'il y avait soit une résignation ou il y avait quelque chose qui se passait qui n'allait pas très bien. Mais écoute, Alcaraz a survolé ce match-là hier. Le nombre de fautes directes de Medvedev était totalement inhabituel. Mais je pense que c'est beaucoup, encore une fois, la vélocité et la qualité du jeu de Alcaraz qui a fait que cette victoire-là était nette. Et il jouait pour la première place mondiale. Il n'a pas manqué sa chance. Ce matin, Carlos Alcaraz est le nouveau numéro un mondial.
Nico, est-ce qu'il y avait un peu de fatigue dans le cas de Medvedev parce qu'il arrivait de près de 20 victoires de suite, 3 titres consécutifs? Il a beaucoup joué récemment. Alcaraz aussi, là, disons-le, là, Alcaraz aussi était un peu dans la même situation, 3 tournois, 2 victoires et une finale. Là, mais est-ce qu'il y avait un peu de fatigue dans le cas de Medvedev? Moi, j'ai senti ça. Je ne sais pas si tu as senti la même chose que moi.
Oui, assurément, mais je me demande vraiment s'il n'y a pas une blessure de cachet parce qu'il est parti flat. Dès les premiers points. T'sais, lorsqu'on parle de fatigue, c'est peut-être rendu à la fin du premier set ou au changement de côté ou lorsqu'on entame le deuxième set. Mais là, dès les premiers points, il semblait débordé, il semblait à plat, il semblait éteint. Donc, je suis convaincu. Puis même lui, à la fin, dans son discours, il a dit « Je suis désolé tout le monde, j'ai offert un spectacle de piètre qualité. » Puis en même temps, c'est tout à son honneur, mais je suis convaincu qu'il n'y a pas juste de la fatigue, il y a assurément une blessure, puis je ne veux pas non plus y aller de fausses déclarations, mais je suis convaincu qu'il y a Anguille sous roche. Là, parce qu'il ne peut pas partir un match de la façon dont il est parti, surtout en finale d'Indian Wells. Cependant, Alcaraz, c'est vrai, il était seul sur le terrain, puis on s'entend, les gars, ce n'est pas une finale qui va aller au temple de la renommée du tennis. Là, mais ce que j'aime beaucoup de ce genre d'histoire, c'est qu'on met souvent l'accent dans le journalisme sportif, dans la façon de raconter des histoires sur les histoires Cendrillon, les gagnants qui ne devaient pas gagner. Mais on dirait que je ne me tente jamais des gagnants qui gagnent et qui devaient gagner. Tu sais, ceux qui...
Tiger Woods était le meilleur exemple au golf.
Exact. Ceux qui devaient livrer et qui livrent. Les Chiefs de Kansas City récemment au Super Bowl. Oui, on en a beaucoup pour les histoires Cendrillon parce que c'est de la surprise, c'est de la magie, c'est de la fantaisie. Mais lorsqu'un joueur comme Alcaraz doit gagner le tournoi pour redevenir numéro un mondial et qu'il le fait, pour moi, c'est une immense preuve de caractère, puis il faut lui lever notre chapeau.
Et il n'a que 19 ans.
Et il n'a perdu aucun set dans tout le tournoi. Les gars, regardez sa liste d'adversaires. Jack Draper, Félix, Yannick Sinner, Daniil Medvedev, il n'a perdu aucun set.
Qui est le dernier joueur à avoir gagné Indian Wells sans perdre aucun set?
C'était Federer et le précédent, c'était...
En 2017, exactement.
Et l'autre avant, ça remontait au début des années 2000, c'était-tu Agassi? Je l'ai vu la stat passer, là, moi aussi, mais Federer était le dernier à l'avoir fait. Et messieurs, tu sais, Carlos Alcaraz, et ce sera probablement... Abraham, prends des notes, là, ça va être la côte du show à sortir. Mais Carlos Alcaraz, de la façon dont il a prouvé ce qu'il peut faire depuis le début de sa carrière, je ne serais pas surpris qu'il puisse battre les records de Federer, de Nadal et Djokovic, parce qu'il va peut-être être tout seul, alors que les trois étaient les trois ensemble et s'entrebattaient. Oui. Alors, si Alcaraz peut dominer au même niveau sans avoir le même niveau de compétition, ben, il va peut-être bien les dépasser les 20, 21, 22, 23, 24 grands chelems d'ici la fin de sa carrière.
Mais c'est clairement un joueur très spécial. Moi, ce que je retiens là, des dernières semaines, d'avoir vu son retour après 3 mois d'arrêt, après blessure, n'oubliez pas. Après, il enchaîne. Buenos Aires qui gagne. Rio, il sera en finale. Il perd en finale, mais il est blessé un peu. Il gagne Indian Wells avec beaucoup de panache. 19 ans, tu le dis. Un bon gars en plus, un bon caractère, fair play. Mais il amène un niveau de jeu qui est une coche au-dessus de tout le monde en ce moment. C'est clair pour moi. Regardez ses volées. Souvent, les joueurs sont un peu moins complets quand ils arrivent à 18, 19, 20 ans. Il reste un coup ou deux à parfaire. Il n'y a aucune faille dans son jeu, Alcaraz. Là. Il y a eu des points majestueux, volés, smash retourné de dos, suivi d'un lob. Écoutez, il peut tout faire à 19 ans. Il est vraiment impressionnant. Ça va être un grand champion, un grand numéro un, Alcaraz. Je suis d'accord avec toi, Alex.
En même temps, restons quand même relativement prudents. Je viens de faire une déclaration choc et j'y crois.
Oui,
mais
le Tree, là, oui.
si tu m'avais... Tu sais, prends... ce que je viens de dire, Alex Réginbald, au début des années 2000, en parlant de Leighton Hewitt, puis peut-être que j'aurais eu exactement le même commentaire, c'est que ce gars-là va battre tous les records de Pete Sampras, et ça n'a pas été le cas. Alors,
c'est une bonne référence. Il me fait penser un peu à ça, parce que Hewitt, quand il est arrivé là, au 99, 2000, 2001, je le regardais jouer, puis je me dis, c'est une autre vitesse. Il est passé à une 8e vitesse quand le circuit était en 7e vitesse. Et c'est un peu le feeling que j'ai avec Alcaraz. On dirait qu'il ajoute une nouvelle vitesse au jeu en ce moment.
Nico, tu semblais vouloir ajouter quelque chose?
Non, simplement dire que, tu sais, l'an passé, avant Roland-Garros, je vous disais à ce même micro que Alcaraz, pour moi, était le parfait mélange entre Djoko, Nadal et Federer parce qu'il y a un peu de tout dans son jeu, tu sais. Puis on dirait que plus je le vois aller, plus il peaufine chaque qualité de ces trois gagnants-là. Il a la souplesse et l'athlétisme de Djoko. Il a le caractère puis la force brute de Nadal. Il a la touche puis il a l'agilité aussi de Federer.
Oui.
Si ce projet-là, qui est Carlos Alcaraz, parce que c'est encore un projet, à 19 ans, il n'a même pas 20 ans, le jeune homme, s'il parvient à peaufiner encore plus chaque parcelle de son jeu, les gars, ce sera dangereux.
Ouais, c'est 100% raison. Écoute, on verra. Je ne serais pas surpris qu'il se devienne une légende du sport, mais en même temps, il est encore tôt de ce côté-là. Il est numéro un mondial. Et là, moi, messieurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est une place de numéro un mondial légitime? Parce qu'on empêche Novak Djokovic de faire des points. Et il y a toujours cette aura-là de dire, ben, si Novak était là, il aurait peut-être gagné le tournoi. Il aurait peut-être engrangé 1000 points de plus. Et il n'a presque pas de points à défendre aux États-Unis. Alors, ce serait 1000 points gagnés pur. Là. Alors, Nico, est-ce que c'est une place de numéro un légitime? Sous-entendu, si Djoko est là, est-ce que Alcaraz est quand même numéro un mondial ce lundi?
Mais tu sais, les gars, ça fait presque un an qu'on parle d'astérisque, là, avec Wimbledon, avec tout ce qui se passe avec les Russes, avec Djoko l'an passé au US Open. Ultimement, Alcaraz mérite cette place-là parce qu'il est possiblement l'un des deux meilleurs joueurs au monde. Mais je ne peux quand même m'empêcher de penser « et si Djoko était là? » Puis j'ai reçu beaucoup de courriels de lecteurs avec ce genre de commentaires, ce qui est complètement légitime parce que Djoko, je pense, encore aujourd'hui, puis je vais mourir sur cette colline, qu'il est le meilleur joueur de tennis sur la planète encore aujourd'hui. Je le pense sincèrement. C'est sûr qu'il faut penser à ça, Alex. C'est une question légitime, puis c'est une bonne question. On peut être en accord ou pas. Oui, Alcaraz mérite d'être au mondial, mais le serait-il si Djokovic? La question se pose. Puis je ne peux m'empêcher de la poser moi-même.
L'autre question par rapport au classement, commentaire par rapport au classement, Hugues, et tu l'as souligné. On en a brièvement parlé la semaine passée, mais là, c'est officiel. Nadal sorti du top 10. Ça fait bizarre à voir quand même un Nadal hors du top 10.
Ouais, ouais. Depuis avril 2005, 18 ans que Rafael Nadal était dans le top 10. Il est à la 13e position ce matin. Ça fait un petit pincement quand même de voir ça. Là. Ça nous donne une petite perspective historique ce matin qu'il faut contempler, qu'il faut absorber même, je dirais. Mais je reviens sur Djokovic. Effectivement, s'il avait été du Sunshine Double, parce qu'on sait qu'il ne sera pas à Miami, il a dû se retirer aussi finalement de Miami. C'est resté réglé pour cette tournée américaine de printemps. Djokovic aurait fait suffisamment de points à quelque part là-dedans pour probablement, je ne parle même pas de gagner le tournoi, là, mais il aurait probablement préservé sa place de numéro un. Donc, c'est sûr que la question se pose, mais encore une fois, Alcaraz, il fait au mieux avec le contexte. N'oubliez pas qu'il est revenu de blessure, je le répète. Il revient comme un train. Là. Il fait quatre tournois. Il fait trois tournois, je m'excuse, trois finales, dont deux championnats. Donc, il mérite tout ce qui lui arrive, Alcaraz, en ce moment. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir le prochain match Alcaraz-Djokovic qui aura sûrement lieu sur terre battue à quelque part dans les prochaines semaines. N'oublie pas qu'Alcaraz a une fiche de une victoire, aucune défaite contre Djokovic. Alcaraz mène. Un match seulement, c'était à Madrid sur terre battue, un match extrêmement serré en 3-7. Et je pense qu'Alcaraz va faire un bon match à Djokovic sur terre battue encore cette année s'il se mesure. Et forcément, ça sera une guerre de coq pour montrer qui est le réel numéro un. Donc, la question est encore ouverte au moment où on se parle.
Mais n'oubliez pas, les gars, que le réel numéro 1 est supposé avoir 2000 points qu'il a pas reçu.
Très juste.
Au classement. Fait que oui, Alcaraz est numéro 1. Puis on a beau dire, si le Djokovic avait été là, serait-il numéro 1? Mais la vraie question à se poser, puis je pense que ce qu'il faut regarder, c'est que Djokovic, présentement, là, j'ai le classement sous les yeux, il est à 7160 points, tandis qu'Alcaraz est à 7420.
Il n'y a même pas 300 points de différence.
Exact, non. Mais Djokovic est supposé être à plus de 9000 points présentement.
T'as raison, t'as raison.
Il aurait fallu qu'il fasse plus 300 par rapport à Djokovic, plus 400, là, et ça aurait été possible s'il avait battu Djokovic en finale. Maintenant, parce qu'Alcaraz aurait pu battre Djokovic en finale, c'est très possible aussi. Mais comme tu le dis si bien, Nico, en même temps, il ne faudrait pas oublier les points de Wimbledon.
C'est fou, les gars. Mini parenthèse sur ça, là, Wimbledon. Là, 6 fois à quel point les répercussions
de cette décision
sont encore aujourd'hui hyper importantes.
C'est un scandale, cette histoire-là. Moi, je le dis, ça a affecté tout l'été 2022. On se souvient à Montréal du premier tour, du deuxième tour, Medvedev-Kyrgios. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait aucun sens. Et encore maintenant, effectivement, Djokovic perd sa place de numéro un pour ses 2000 points auxquels il n'a pas pu toucher. Et n'oubliez pas que ces points-là ont des répercussions sur les contrats de commandite. Là. Il y a des clauses de bonus si tu atteins un certain niveau, dont le niveau numéro un. Moi, je suis assuré de ça. Donc, les conséquences sur cette décision de l'ATP, elles sont encore profondes aujourd'hui. Et elles touchent Rybakina du côté féminin aussi. Hein. Donc, on vit avec ça encore aujourd'hui.
Ben, parlant du côté féminin, messieurs, on va faire une courte pause et au retour, on va prendre le temps de parler comme il faut de ce qui s'est passé du côté des femmes parce qu'on a eu droit à tout un spectacle.
Vous souhaitez faire une escapade de dernière minute? Profitez actuellement de 35% de rabais sur les magnifiques suites de l'hôtel Montville en utilisant le code promotionnel MKTFLASH lors de votre réservation. Cette offre est limitée. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour au cœur de Montréal. Le restaurant Monem de l'hôtel Montville, c'est revenir à l'essence même de l'art de vivre et du bien manger. Une offre qui met le client au centre de l'expérience en mettant de l'avant des cocktails créatifs et des plats généreux inspirés de la gastronomie française. Venez vite le découvrir en réservant sur Open Table Montréal ainsi que 2 tapis de yoga Lolé à disposition.
Retour au Radio Podcast sur la ligne, le balado officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. Exceptionnellement, je ne suis pas au Montville aujourd'hui, Hugues. Mon horaire ne me le permettait pas, mais j'ai hâte d'y retourner à l'Hôtel Montville, qui est un partenaire avec nous depuis presque le tout début. Et je veux dire, j'ai fait plusieurs hôtels. Là. L'Hôtel Montville n'a pas à rougir de ce qu'elle peut offrir. Si vous avez une chance d'aller faire un tour au centre-ville, là, je pense que ça vaut la peine. Parlant d'éléments spectaculaires, on a eu droit à tout un spectacle en finale du côté des femmes, messieurs. Si, comme Nico, tu le mentionnais, la finale des hommes ne passera pas à l'histoire, ne sera pas au temps de la renommée, on a eu quelque chose de très divertissant entre Rybakina et Sabalenka, une reprise de la finale en Australie.
Ouais, puis les gars, on ne pouvait pas s'attendre à moins. Vous le saviez à quel point, mais je pense qu'on était tous pas mal excités de cette revanche-là ou de ce tome 2 de cette finale en Australie entre Sabalenka et Rybakina. Et quel match de tennis ça a été. J'étais sur le bout de mon siège du début à la fin. Puis pour moi, on peut diviser ce match-là en trois portions. D'abord, puis c'était mon titre ce matin dans la presse, il faut parler de Rybakina. On en a parlé, elle s'est fait voler 2000 points. Elle s'est fait voler. Là, elle serait dans le top 3 mondial si on lui avait donné Wimbledon. Mais au-delà de ça, c'est une fille qui est tellement méconnue. Puis on l'a vu hier, les gars. Elle a gagné le tournoi le plus, en fait, le deuxième plus important de sa carrière. A à peine levé les bras pendant qu'elle attendait le trophée. À peine un sourire. D'après moi, cette fille-là est tellement gênée. Elle était tellement stupéfaite. Elle veut tellement pas déranger. Puis c'est ce qui me fascine un peu d'une grande championne comme ça. Mais elle a tellement bien joué hier, les gars. Ses retours de service contre les missiles de Sabalenka, c'était une œuvre d'art. Et il faut parler d'elle de plus en plus. Peu de gens la connaissent. Peu de gens savent même comment écrire son nom. Et ultimement, elle est l'une des meilleures joueuses au monde. Après, il y a Sabalenka qui, oui, elle a très bien joué. Tellement un match serré. Mais elle s'est sabotée dès le premier set, les gars. Parlons-en. C'est 10 doubles fautes. T'sais, on sait à quel point Sabalenka, c'est une fille qui est bonne au service. Comme Félix, ça fait partie intégrante de son jeu. Puis tu sais, les deux, en fait, étaient très bons au service. Là. Sabalenka, c'est la force pure, tandis que Rybakina, c'est plus une précision plus robotique. Et hier, la précision l'a emporté. Mais hier, notamment dans le bris d'égalité de fin de manche, 3 doubles fautes. C'est impardonnable parce qu'ultimement, Sabalenka, c'est une fille qui est téméraire. Elle aime viser les lignes. Elle aime essayer le gros jeu. Puis habituellement, ça marche parce qu'elle a ce qu'il faut en tant que deuxième raquette mondiale pour réparer ces erreurs-là. Mais contre une fille du talent de Rybakina, tu ne peux pas te permettre de jouer trop souvent avec le feu. Puis je termine, les gars, en vous disant que pour moi, c'est la preuve que le tennis féminin, les gars, est en excellente santé. Et je rêve du jour où, à une finale d'Indian Wells, les filles pourront jouer le dimanche après le programme masculin parce qu'on a vu hier que c'est pas parce que les gars sont plus forts, peut-être plus agiles, plus puissants, que c'est nécessairement mieux pour le spectacle. La finale féminine hier sera dure à battre pour le reste des autres finales, peu importe le tournoi d'ici la fin de l'année. Elles nous ont offert un tennis de qualité qui, pour moi, représente à quel point le tennis féminin est dans la bonne direction.
Oui. Hommage aussi de mon côté à Rybakina, championne de Wimbledon, finaliste Australian Open, championne d'Indian Wells, WTA 1000. Elle sort Iga Swiatek. Est-ce qu'Iga était à 100% ou pas? Je ne le sais pas, mais elle gagne quand même 6-2. Facile. Contre Iga Swiatek. Elle a bulldozé Swiatek. Ça n'arrive pas souvent qu'on voit ça. Généralement, c'est plus les scores de Swiatek, un 6-2, 6-2. Donc, elle se retrouve ce matin, je crois, à la 8e position.
Elle était 7e ce matin, Hugues.
Effectivement, donc 7e. Puis, effectivement, si elle avait touché ses points de Wimbledon, ben, elle serait dans le top 5 à tout le moins. Là. Donc, c'est vraiment une performance remarquable de Rybakina. Puis je reviens aussi sur ce que tu disais, Nico. Elle a une discrétion, elle a l'air d'une petite fille. Là. Elle est très, très, très humble et très discrète aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de voir une championne comme ça. Puis j'ai beaucoup aimé la cérémonie de remise de trophée. Il y a un petit peu de camaraderie.
Cool.
Ça rigolait entre Sabalenka et elle. C'était très sympathique. Là. Donc, c'est vraiment le fun de voir cette rivalité-là qui s'installe entre Rybakina et Sabalenka.
Et, ouais, tu sais, et c'est des choses qu'on aimerait presque voir plus souvent, cette camaraderie-là après les discours. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, pendant que Rybakina faisait son discours, elle disait qu'elle était contente de finalement avoir battu Sabalenka. Sabalenka, il a fait comprendre que c'était probablement la dernière fois. Elle allait s'arranger pour que ce soit la dernière fois.
Oui, parce que Rybakina lui a dit, c'est la première fois que je te battais en 5 matchs. Puis là, Sabalenka est partie de sa place pour prendre le micro et dire, je vais m'assurer que ce soit la dernière fois. Puis là, c'est Rybakina de répondre, non, je vais encore te battre. Fait que non, je trouve ça chouette aussi de découvrir, en fait, que les gens puissent découvrir une Sabalenka qui, sur le terrain, est très aride, très sévère, à la limite un peu bête puis méchante, tu sais. Mais lorsque le match est terminé, il y a un respect mutuel pour la game. Puis ça, je trouve que c'est extraordinaire pour notre sport. Tu sais.
Mais c'est peut-être un peu culturel, puis je ne veux pas trop m'avancer, mais tu sais, de façon traditionnelle, les Russes, ce n'est pas nécessairement les plus expressifs. Elle est kazakh, là, mais elle a quand même une certaine origine russe. Et quand on regarde son tournoi Rybakina, c'est absolument phénoménal parce qu'elle a battu 3 championnes de Grand Chelem, Sofia Kenin au premier tour, Iga Swiatek, tu en parlais tantôt avec une facilité presque déconcertante, et Sabalenka. Et au passage, elle aura battu Paula Badosa également, une fille qui a déjà remporté ce tournoi-là. C'est pas comme si elle avait eu un walk in the park pour se rendre en finale. Elle a eu tout un tournoi et c'est remarquable ce qu'elle a réussi à faire. Alors, Elena Rybakina, tout le mérite et quel spectacle, je le répète encore une fois, on a eu hier dans cette finale-là. Intéressant. Alors, Sabalenka, elle est au deuxième rang mondial et tu disais, comme tu le disais si bien, Hugues, Rybakina, elle est septième, mais c'est pas un vrai set. C'est une fille virtuellement du top 5 mondial.
Oui.
Hugues, il n'y avait pas que Indian Wells qui se déroulait en fin de semaine. Il y avait beaucoup d'actions également du côté du Parc Jarry. Il y a eu deux tournois de niveau ITF. Fais-nous donc un peu le résumé de ce qui s'est passé là et tu as rencontré certains intervenants qui ont joué ce tournoi-là, dont Gabriel Diallo.
Bien, on a rencontré et on a eu la chance, j'ai eu la chance de recevoir les deux gagnants, en fait. Il y a deux ETF qui se suivaient, donc la semaine dernière, ETF 25 000, et un deuxième cette semaine, celui de la semaine dernière remporté par le Français Jules Marie, 400e mondial, un garçon charmant que j'ai rencontré qui avait arrêté sa carrière professionnelle en 2015 parce qu'il disait « je ne peux pas aller plus haut que où je suis rendu » puis ça commençait à coûter très cher pour lui. Il a dit « je vais trouver une façon de revenir sur le circuit secondaire, donc jouer des challengers, des ITF et de se faire commanditer et de diffuser son parcours de joueur de tournoi de second plan. » Et il s'est fait une petite business comme ça. Donc, il voyage avec son équipe, avec un caméraman, un scripteur, son responsable de réseaux sociaux. Et lui, fait des tournois et, ma foi, performe très bien avec son but ultime. Sa vision, c'est de rejouer un tournoi de Grand Chelem. Donc, de faire les qualifications pour un Grand Chelem. Il vise Roland-Garros pour cette année. Ça ne sera pas évident avec une 400e position. Mais Jules Marie a donc remporté le premier ETF à 25 000 la semaine dernière à Montréal. Vous irez voir sur nos plateformes. On a une entrevue avec lui qui est vraiment intéressante. Et cette semaine, Gabriel Diallo, premier favori, le Canadien, qui avait gagné évidemment Granby plus tôt en 2022, qui avait sorti James Duckworth dans les qualifications de l'Omnium Banque Nationale l'été passé, qui remporte de belle façon le tournoi hier. Donc Gabriel qui sort vainqueur de ce ETF 25 000 à Montréal avant de repartir pour l'Europe et lui aussi de tenter de se qualifier pour Roland-Garros. Il y aura deux tournois indoors dans les prochaines semaines, je crois à Lille dans le nord de la France et un autre en Allemagne avant de commencer à se préparer sur terre battue rouge en vue de Roland-Garros. Donc Gabriel qui est aussi un produit de Tennis Montréal, je tiens à le dire, donc c'est un peu un retour à la maison quand il est venu dans nos bureaux vendredi dernier.
Hugues, est-ce que ces tournois-là sont accessibles pour les spectateurs?
Oui.
Est-ce qu'on peut aller voir ça? Parce écoute, si tu as la chance d'avoir un Gabriel Diallo alors qu'il n'y a personne autour, c'est une façon de regarder du tennis qui devient particulièrement intéressante parce que tu es beaucoup plus près des joueurs.
Ben, deux choses. On peut suivre ce circuit-là sur le site de l'ITF. Hein. Vous tapez ITF 25 000, ITF 15. Vous allez trouver tous les matchs en streaming. Donc, vous pouvez suivre tous les matchs de ce niveau de joueur-là, disons entre le 200e et le 500e au monde. C'est de très haut niveau. Et au stade IGA, évidemment, sur les cours intérieurs, c'était complètement gratuit. Tout le monde pouvait venir. Il devait y avoir 200 personnes qui étaient tout près du terrain pour la finale sur le court numéro 1 de Gabriel Diallo hier. Et oui, bon, c'est dommage. C'est terminé. Là. Il n'y en a pas d'autres qui s'en viennent dans les prochaines semaines, mais on vous informera s'il y a d'autres tournois là, qui ont lieu ici. Mais les tournois de niveau futur sont gratuits. Donc, ils sont ouverts au public. Donc, c'est vraiment le fun d'être tout près là, d'une balle de Gabriel Diallo qui descend à 200 km/h sur son premier service. Là. C'est un joueur de très haut niveau qui progresse encore et qui sera peut-être un top 100, top 50 mondial d'ici un an ou deux.
Oui, peut-être même avant ça. Des fois, ça prend qu'un ou deux bons résultats. Ouais. Je dis n'importe quoi, mais suppose qu'on lui donne un laissez-passer à l'Omnium Banque Nationale et qu'il fait un ou deux tours, il va augmenter son classement assez rapidement. Alors, intéressant de garder ces tournois-là à l'œil si jamais vous êtes un fan de tennis. Si c'est gratuit, vous pouvez aller voir le Parc Jarry. Le Parc Jarry, c'est tellement un bel endroit, le stade IGA, pour regarder du tennis. Là, honnêtement, il n'y a pas envie, c'est un site qui n'a pas envie à beaucoup d'endroits dans le monde. C'est Tennis Paradise 2.
Surtout que Gay là, qui est comme l'attraction principale.
Exact,
là.
Exact.
Moi, je vous amène le Gatorade si vous êtes là, puis on pourra prendre un café ensemble.
Hugues est disponible pour signer des autographes si jamais vous...
Mais il faut réserver, il y a une plage horaire. J'ai essayé l'autre jour, puis c'était plein pour les deux prochaines semaines.
Vous le voulez. Messieurs, maintenant qu'on a fait le tour de ce qui s'est passé la semaine passée, regardons ce qui s'en vient la semaine prochaine parce que, bon, le Sunshine Double, ça vient Indian Wells et Miami tout de suite après. Il y a déjà des joueurs qui sont en action pour des qualifications. Au moment où on enregistre l'émission, le tableau des hommes n'est pas sorti, mais on sait ce qui va se passer du côté des femmes. Alors, regardons de ce côté-là et à tout seigneur, tout honneur, commençons avec un duel tout canadien, Bianca Andreescu et Raducanu.
Ouais, on peut le dire comme ça. L'anglaise Raducanu, gagnant du US Open en 2021. Encore une fois, un gros test pour Bianca, mais j'ai tellement aimé sa performance contre Swiatek que moi, je donne une bonne chance à Bianca Andreescu de gagner ce match de premier tour, qui est quand même un match impressionnant là, pour une première ronde d'un WTA 1000. Mais je pense que Bianca est dans de très bonnes dispositions en ce moment. Elle a bien joué, elle a pris de la confiance dans son match contre Iga Swiatek. Donc, moi, je suis prêt à parier sur une victoire de Bianca au premier tour contre Raducanu à Miami.
Ben, elles ont déjà joué une contre l'autre. Bianca l'avait emporté, mais ouais. Raducanu s'était retiré. Alors, est-ce qu'il y avait une blessure? Et de la façon dont Raducanu joue depuis... Bon, là, elle a connu quand même un pas si mal tournoi. Là. Les derniers moments ont été moins pires, oui. Là, mais la dernière année n'a pas été nécessairement facile. Nico, c'est quand même un adversaire difficile pour Bianca Andreescu quand elle affronte une championne de Grand Chelem au premier tour.
Oui. Mais sauf que je penche un peu du côté à Hugues, c'est-à-dire qu'elle a fait un 7-6 contre Swiatek dans un moment crucial, Bianca. Oui, elle a perdu, mais je trouve qu'elle a très bien réagi. Elle semblait heureuse aussi malgré la défaite. Je suis convaincu que ça va être un tour, une victoire de premier tour là, pour Andreescu. Le reste du tableau, là, Alex va en parler, ce sera pas simple. Mais si elle peut battre une championne Grand Chelem pour commencer un tournoi de l'ampleur de Miami, ça peut être de bon augure, je pense, pour le reste.
Ben moi, je l'ai mis vainqueur dans mes prédictions sur le site de Tennis Canada. Par contre, Hugues, s'il fallait qu'elle passe Raducanu, ça ne sera pas plus simple au deuxième tour. Là. Ça sera Maria Sakkari, une des meilleures joueuses au monde.
Oui. Sakkari qui s'est incliné en demi-finale contre Sabalenka. C'est un gros deuxième tour. Puis encore une fois, c'est une année où Sakkari veut aller chercher un gros titre. Donc là, c'est sûr que ces matchs de premier tour, deuxième tour, elle a tendance à passer à travers assez rapidement. Donc j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer si jamais ce match-là a lieu. Mais là, ça va être pas mal plus compliqué contre une Sakkari que contre Raducanu, je crois. Mais encore une fois, Bianca peut rivaliser avec les meilleurs. Donc moi, je suis pas contre l'idée qu'il y a un déclic qui se fasse à un moment donné là, contre une joueuse du top 3 et qui la relance dans sa nouvelle quête d'être dans le top 10, comme elle nous l'a dit il y a quelques semaines. En fait, elle avait affirmé à Nicolas Richard pour la presse. Donc, j'ai confiance en Bianca. J'ai confiance.
La bonne nouvelle, c'est qu'elle l'a déjà battue. Son 1-1 dans les confrontations et la seule fois qu'elle l'a battue, c'était à Miami. Ouais. C'était en 2021, par contre, la dernière fois, par contre, la victoire est allée à Sakkari. Enfin, ce qui est certain, c'est que c'est une entrée en matière très complexe pour Bianca Andreescu. C'est dommage, mais le tableau ne la favorise pas. Ce qui est tout le contraire pour Leila Annie Fernandez qui va affronter une qualifiée, ce qui est généralement une bonne nouvelle. On ne parlera pas trop de qualifiée pour l'instant, mais au deuxième tour, ce serait Bencic.
Ouais.
Et là, encore une fois, ce ne sera pas simple pour Leila Hugues.
Elle a déjà battu Bencic, hein, mais c'est une joueuse, on dirait, avec qui elle se retrouve souvent. Ça va être une des plus grosses victoires de Leila en Billie Jean King Cup il y a quelques années contre la Suisse et Bencic. Bencic lui avait rendu la monnaie de sa pièce l'an passé à Glasgow. Mais bon, encore une fois, comme on dit toujours, un tour à la fois. Donc, on verra ce qu'elle fait avec la qualifiée. Elle devrait partir à travers ce match-là. Et on sait qu'elle peut battre Bencic. Donc, à suivre. Hein, c'est un WTA 1000. Tous les matchs seront de très haut niveau.
Nico, est-ce que Fernandez va réussir à passer le deuxième tour selon toi?
Oui, mais pour Leila, moi, j'ai plus d'attente tant que ça parce que c'est tellement dur de prévoir comment elle va réagir. Mm. que je préfère ne pas me mouiller. Oui, tu sais, contre une qualifiée, je ne peux pas croire qu'elle va perdre. Là, Bencic, ce ne sera pas simple. C'est une excellente joueuse, surtout sur dur. Je pense que Bencic va avoir l'avantage, malheureusement, mais qui sait, Léla peut nous surprendre avec une run extraordinaire à Miami. C'est un climat qui lui convient bien aussi, elle qui s'entraîne en Floride depuis son tout jeune âge. Là, donc, c'est un environnement et un contexte qu'elle connaît et qu'elle apprécie, je pense. Mais c'est tellement dur de prédire pour Léla que je ne sais pas comment attendre.
Enfin, ce qui est certain, c'est qu'elle n'a pas été chanceuse dans ses tirages au sort, là, dans les matchs de premier ou deuxième tour depuis le début de l'année. Bon, quand tu frappes des Caroline Garcia à répétition assez rapidement dans le tournoi, là, puis là, encore une fois, tu as une joueuse du calibre de Bencic qui a remporté des grands tournois dans sa carrière. Alors, ce sera pas simple pour Léla Annie Fernandez. Dans le cas de Rebecca Marino, ce sera Poutine Seva, ce qui est peut-être une adversaire qui est quand même prenable pour Rebecca Marino, parce que bon, on le sait avec l'arme qu'elle a au service, elle peut battre beaucoup de joueuses sur le circuit. Elle m'a dit, quand je lui ai parlé à Indian Wells, Rebecca Marino, que les conditions et le terrain ne la favorisaient pas. Alors peut-être qu'à Miami, le terrain sera un peu plus rapide, on verra. Mais Poutine Seva, c'est une compatriote à Rybakina parce que c'est une Kazakh, elle aussi. Exact. Elle est 43e mondiale pour l'instant.
Et les gars, attention, si ça passe au premier tour, ça sera Coco Gauff au deuxième tour pour Marino.
Exact. Alors, c'est très possible qu'elle passe le premier tour. Une 43e mondiale comme Poutine Seva, c'est à la portée de Rebecca Marino. Je pense qu'il n'y a personne qui en doute. Coco Gauff au prochain tour, ce serait également tout un défi. On ne s'étendra pas trop sur les hommes, messieurs, parce que, comme je le disais, le tableau au moment où on enregistre l'émission n'est pas sorti. Quelques petits faits intéressants. Par contre, on pourrait avoir un potentiel quart de finale entre Swiatek et Rybakina. Alors, peut-être une revanche et dans un match de quart de finale, ce serait peut-être un peu plus tôt que ce qu'on aimerait. Brenda Frouvirtova, la jeune prodige, a un laissez-passer. Alors, peut-être garder un œil sur la petite sœur des Frouvirtova. Et d'ailleurs, Linda, celle qui est un peu plus vieille, affrontera Jessica Pegula, elle, potentiellement au deuxième tour. Alors, les deux sœurs Frouvirtova dans le tournoi. Le tennis tchèque est en santé et continue de nous impressionner avec des espoirs comme Noskova et les sœurs Frouvirtova. D'ailleurs, Noskova est également dans le tableau. Messieurs, on va faire une courte pause et au retour, on accueille Isabelle Etier et on va parler d'un article qui a fait beaucoup jaser parce que Chapovalov a mis son pied à terre sur la question de l'équité.
Vous souhaitez faire une escapade de dernière minute? Profitez actuellement de 35% de rabais sur les magnifiques suites de l'hôtel Montville en utilisant le code promotionnel MKTFLASH lors de votre réservation. Cette offre est limitée. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour au cœur de Montréal. Le restaurant Monem de l'hôtel Montville, c'est revenir à l'essence même de l'art de vivre et du bien manger. Une offre qui met le client au centre de l'expérience en mettant de l'avant des cocktails créatifs et des plats généreux inspirés de la gastronomie française. Venez vite le découvrir en réservant sur Open Table Montréal ainsi que deux tapis de yoga Lolé à disposition.
De retour au podcast sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Et pour ce troisième et dernier bloc, on accueille Isabelle Etier. Bonjour Isabelle!
Bonjour. Comment allez-vous, messieurs?
Isabelle! On se porte bien, on est à mi-chemin dans le Sunshine Double, comme on dit, Indian Wells et Miami. As-tu, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, as-tu été satisfaite par le spectacle que tu as pu constater à Indian Wells?
Oh ben, c'est sûr qu'en finale, le match féminin, c'était enlevant, c'était très intéressant. Maintenant, en finale masculine, c'est bon, Medvedev n'était pas l'ombre de lui-même, mais quand même, Carlos est tellement impressionnant, la rapidité, les échanges, là, j'étais, je me regardais, je me dis, mon Dieu, que j'ai des croûtes à manger dans mon tennis pour penser, même pas atteindre un centième de ce qu'ils font.
Tu peux demander des conseils à Nico, parce que Nico, lui, il ne le dit pas, mais il est 4e joueur mondial.
Exactement.
En compagnie de ton ami, comment il s'appelle, celui qui nous écoute? Qui
Francis, bon, salut, il vient manger des pâtes hier à la maison.
Ah bon, bon salut Francis, lui qui est 3e joueur mondial puisqu'il te bat tout le temps.
On a joué au ping-pong et je l'ai humilié. humilié.
On salue Francis. Voilà. Isabelle, on t'accueille parce que oui. Tu voulais nous parler d'un sujet qui a fait beaucoup jaser. On n'en a pas parlé dans les deux dernières semaines, mais c'est un article que Chapeau a écrit dans le Players Tribune juste avant, qui a paru juste avant Indian Wells. Là, comme le tournoi est terminé, on a un peu plus de temps. Il a mis son pied à terre sur la question de l'équité. Je ne sais pas si tu veux résumer la situation ou résumer un peu l'article pour les gens qui ne l'auraient pas vu.
En fait, c'est vraiment dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Hein. C'était en mars, c'était juste avant, parce qu'on sait qu'Indian Wells a commencé le 8 mars. T'sais, on dirait que tout est dans tout, j'aime bien dire ça. Et Denise Shapovalov, qui fréquente d'ailleurs une joueuse de la WTA, Myriam, et là, je m'excuse déjà de la prononciation de son nom de famille. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut m'aider, là, mais Björklund.
On aurait fait à peu près pareil, je pense.
Bon. Bref, probablement à cause de ça qu'il est, grâce à sa relation avec elle, il a pu réaliser les différences entre comment une femme elle est gérée sur le tour versus la WTA versus l'ATP. Et une de ses grands révélations, une des premières choses, si on fait un tournoi sur la WTA 250, sur une carte principale, une femme peut s'attendre à avoir $1,000 comme bourse versus un homme va avoir $7,000. Une autre grosse différence, lorsqu'on est en tournoi Challenger, un homme va s'attendre à avoir son hôtel payé, d'avoir une réception, tandis que la femme, elle doit payer tous ses trucs. Fait qu'il y a vraiment encore une très grande différence dans la façon de gérer l'athlète féminine versus masculine. Je tiens à rappeler, d'ailleurs, que malgré qu'il y a plusieurs bourses qui sont équitables, Indian Wells fait partie, justement, c'est le premier ATP 1000 qui a eu des bourses équitables. Donc, en 2012, on avait autant la femme que l'homme le même montant. Rappelez-vous aussi que la semaine dernière, on a eu aussi, pour souligner le 50e anniversaire de la première bourse équitable durant un tournoi du Grand Chelem, ils ont sorti justement la campagne qui va être le thème du US Open cette année, Be Open, soyons ouverts justement pour parler d'équité. Fait que pour moi, ça me rappelle, j'aimerais ça vous entendre aussi là-dessus, les gars, parce que pour moi, tu sais, il me semble qu'on est rendu en 2023, d'encore penser à se battre pour avoir des droits équitables, d'avoir les mêmes montants lorsqu'on se retrouve, on fait le même sport, on a les mêmes frais d'entraîneur, de déplacement, puis bon, on a souvent les mêmes fautes. Si on regarde juste la finale hier, puis tu sais, j'ai regardé dans les estrades, il y avait quand même énormément de gens, puis c'est un super bon spectacle féminin versus masculin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais qu'est-ce que ça prendrait pour changer ça?
C'est un enjeu plus complexe que ça peut paraître, au sens où c'est à mon sens, à moi, pas juste une question d'équité, mais il y a une question de libre marché aussi à connecter avec tout ça, j'ai l'impression. Et ça, faudra soit trouver une façon... Bon, le tennis, il est particulier dans ce sens où... C'est le sport peut-être qui a le plus d'intérêt médiatique pour les femmes. Alors, ça, c'est un gros avantage pour les femmes. Mais il y a peut-être certains tournois... Enfin, jusqu'à tout récemment, c'était peut-être un peu plus compliqué pour certains tournois parce que des fois, tu avais des hommes et des femmes au même endroit, mais tu n'avais pas exactement le même niveau de tournoi. Alors, c'est ce qui changeait les bourses. Mais je pense que dans les tournois du Grand Chelem, dans les tournois Masters Mill, c'est non seulement essentiel, mais plus qu'important qu'on ait des bourses équitables. Maintenant, il y a toute une question de revenus aussi. Peut-être que l'idée, c'est peut-être de mettre tous les revenus, hommes-femmes confondus, et de diviser après à tout le monde. Je ne sais pas. Hugues, t'en penses quoi? Parce que c'est effectivement un enjeu société d'équité essentielle à mon sens, mais qui est quand même pas si simple que ça à régler, en tout cas, a priori.
Je pense que le souhait est juste et que cette équité doit être atteinte, mais il y a des efforts qui doivent être faits pour y arriver. Et si on met strictement en relation les coûts et les revenus, ça ne fonctionne toujours pas. Patrick Mouratoglou a d'ailleurs fait une sortie pas plus tard qu'hier sur ça pour dire que la WTA n'avait tout simplement pas assez d'argent. Donc, il y a un travail à faire encore au niveau des commanditaires, des partenaires, des droits de diffusion pour essayer de se rapprocher de plus en plus. Et c'est de cet argent-là que les circuits pourront utiliser pour pouvoir réussir à rapprocher les bourses. On sait que les grands chelems, cette parité a été atteinte. La plupart des WTA 1000 y sont maintenant. Ils n'y sont pas tous en passant, mais on se rapproche et c'est une bonne chose. Mais il faut que le volet, encore une fois, revenu soit poussé davantage pour qu'ils aient les moyens de ces ambitions au niveau de l'équité. Mais encore une fois, je pense que ça passe par des partenariats, par des commanditaires qui vont dire « Nous, on croit à ça. Ça fait partie de notre gouvernance d'entreprise. Ça fait partie de nos objectifs. Donc, on veut mettre plus d'argent sur ça. » Et c'est comme ça qu'on va y arriver parce que le circuit seul et les joueuses ne pourront pas y arriver.
Et ce qui est compliqué aussi… Ouais, Nico, excuse-moi. Ce qui est compliqué, c'est que… Bon, l'ATP et la WTA, ce sont deux fédérations, mais qui ne se parlent pas tout le temps non plus. Ce sont deux fédérations indépendantes qu'il faut
garder. Mais ça évolue.
Oui, ça évolue et ça, c'est certain. Mais ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que tous les athlètes sont aussi des entreprises indépendantes. Alors, fédérer tout le monde et mettre tout le monde sur la même page, ça peut devenir plus compliqué au niveau des négociations également. Là, je ne dis pas que les commanditaires ne devraient pas avoir une équité, c'est pas ce que je dis, mais je dis juste que c'est pas comme si tu avais une ligue qui fédérait tout le monde. Tout le monde.
Ben, je peux ajouter à ça, sur le plan stratégique, la WTA et de l'ATP, ils ont cette ambition de travailler as one. One, c'est le grand pilier stratégique. Donc, tranquillement, ils vont essayer d'avoir de plus en plus d'événements communs, de mise en marché au niveau commercial commune aussi pour que ça soit vendu comme un circuit masculin et féminin, mais sous une seule ombrelle. Donc ça va simplifier les choses. Donc ça, c'est un gros chantier là, pour la WTA avec l'ATP. Des projets comme Breakpoint de Netflix, c'était fait en collaboration avec l'ITF aussi et des grands chelems en passant. Mais donc, il y a de plus en plus de pooling au niveau des ressources qui est fait. Et il y a des indices quand même encourageants du côté féminin. N'oubliez pas que les finales féminines de depuis 3 ans, sont meilleurs en termes de cote d'écoute au US Open que du côté masculin. En Australie, cette année encore, avec Djokovic du côté masculin en finale, la finale Rybakina-Sabalenka fait des meilleures cotes d'écoute que le côté... Donc, il y a des choses, il y a des bons chiffres avant nos commanditaires en ce moment.
Ouais, Nico, tu voulais acheter?
Vas-y, Nico.
Ah, vas-y, Isa.
Mais en fait, moi, ce que je voulais juste rebondir rapidement sur Hugues en disant, moi, j'ai tout le temps la phrase, tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Donc, il faut montrer le sport. Si on n'est pas à des heures de grande écoute, si tu ne sais pas que ça existe, tu ne peux pas aimer ça. Et donc, il faut investir dans le sport au féminin. Même si le tennis fait bonne figure lorsqu'on le compare aux autres sports, il y a encore du travail à faire. Et moi, c'est ça aujourd'hui mon point. Et d'avoir des alliés comme Denis Shapovalov qui le dit haut et fort et qui n'a pas peur de... Puis un autre qui fait ça, c'est Andy Murray, qui est très, très, très au fait rappelez-vous, quand il était à Wimbledon, qui avait juste mentionné male player versus... parce qu'un player, un joueur de tennis, ça peut être un homme ou une femme. Je trouve que c'est important juste de se le ramener parce que, les deux méritent et ça fait du bon spectacle. Je te laisse aller maintenant, Nico. Désolé.
Oui, j'allais simplement dire, quand tu parlais, Isa, tu me faisais penser à la tournée de Billie Jean King. Quand elle était venue l'an passé à Montréal, il y a plusieurs personnes qui lui ont demandé « Pourquoi êtes-vous encore ici? Pourquoi faites-vous des tournées à presque 80 ans? Pourquoi vous êtes ici? » Elle a dit « La job n'est pas finie. » Exactement. Donc, c'est pour ça que Billie Jean King, notamment, continue de faire des conférences, continue de donner des entrevues, continue d'aller au final des différents tournois du Grand Chelem parce que le boulot n'est pas terminé.
Et ce que j'aime de Billie Jean King, c'est qu'elle ne se concentre pas seulement sur le tennis, elle le fait aussi pour d'autres sports. Elle fait partie de la solution pour le hockey féminin. Bref, c'est important de se lever et d'aider tout le monde parce que tout le monde a le droit de jouer.
On voit ce qui s'est passé du côté de Soccer Canada il y a quelques semaines et ça a ébranlé les colonnes du Temple. Là, et finalement, le président a dû démissionner sur le sujet justement de la négociation avec l'équipe féminine. Puis effectivement, ils vont augmenter de façon significative les bourses. C'est une augmentation de 300%, si je ne me trompe pas, parce qu'ils doivent le faire maintenant. Donc, des fois, peut-être que les revenus ne coïncident pas exactement, mais on doit donner l'exemple et tirer dans ce sens-là. Je crois que la société, donc les entreprises, les commanditaires, les diffuseurs vont aller dans ce sens-là aussi. Mais il faut donner des coups de barre en ce moment et donc le travail se poursuit.
Exact, parce que, bon, c'est vrai que pour l'instant, dans le sport féminin, il n'y a pas le même niveau de revenus que dans le sport masculin pour l'essentiel des sports, mais ce n'est pas nécessairement l'argument massu, parce que ces revenus-là peuvent venir si tu vends le sport sur une longue période de temps. Alors, c'est un projet à long terme à faire, et dans 15 ans, peut-être, tu n'as plus ce problème-là et tu vends ton sport comme le tennis a réussi à vendre merveilleusement bien le tennis féminin. Alors, tu disais, pour le voir, bon, le tennis fait un bon travail de façon générale pour exposer les femmes et exposer les histoires. Regarde, tu en parlais, Hugues, là, les finales au US Open des trois dernières années ont été plus écoutées du côté des femmes. Alors,
mais c'est pour ça, Alex, que tu sais, dans mon article dans la presse ce matin, je disais pourquoi hier la finale féminine n'aurait pas été à heure de grande écoute à la place des gars. Filles ne jouent jamais le dimanche. Là, fait que pourquoi pas prendre cette opportunité, alors que c'est un rematch de la finale de l'Australie, alors que tu sais très bien que ça va être un grand match, pourquoi pas, pour une fois, simplement dire les filles, vous allez jouer prime time.
T'sais. Cela dit, mettons, dans le contexte d'hier, je ne suis pas sûr nécessairement que ça s'applique. Bon, de un, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte. À quelle heure les filles ont joué la journée avant, à quelle heure les hommes ont joué avant, après, ils peuvent faire en sorte que les femmes décident de jouer en après-midi parce que les hommes ont joué tard et on veut garder le même temps de repos. Alors, il y a ça qui rentre en ligne de compte également. Et l'autre chose, je te dis pas qu'on n'aurait pas pu inverser les deux matchs, je te dis pas ça. Mais hier, tu as quand même un ancien numéro un mondial, deux champions de Grand Chelem, tu as deux numéro un mondial qui s'affrontent. Ça se défend, là.
Cependant, ils vont jouer le dimanche à Wimbledon, à Roland-Garros, puis au US Open. Là, on avait une belle chance de faire jouer les dames pour clore un gros tournoi. T'sais, moi, c'était plus ça, le fait de l'opportunité qui ne reviendra pas.
Oui. On pourrait aller avec un système d'alternance. On pourrait aller, tu joues les femmes prime time, puis les hommes, puis ça pourrait être aussi simple que ça. C'est tellement un sujet intéressant, puis Isa, tu étais la meilleure personne pour venir en parler avec nous. Merci infiniment. Et honnêtement, ça va prendre d'autres gens comme Chapeau, comme Murray, comme tu le disais, pour continuer à pousser et à faire avancer le travail que Billie Jean King a commencé il y a déjà une cinquantaine d'années. Là. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais faut pas arrêter d'en parler, ça, c'est certain. Isabelle, Nico, Hugues, merci infiniment pour cet autre excellent épisode. Et Nico, comme c'est la tradition, je te donne le mot de la fin.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis Isa, bon tennis tout le monde.